Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe aux États-Unis, dans le Colorado, en août 2016. Ce poids lourd, de plusieurs tonnes, chargé de bière Budweiser, part de la ville de Fort Collins, siège de la célèbre marque, au nord de l'État, et parcourt 200 km d'autoroute en ligne droite jusqu'à Colorado Springs, au sud de l'État. Le trajet se passe sans problème, les 50 000 canettes de bière sont livrées dans les délais. Jusque-là, rien d'étonnant. Sauf que derrière le volant du camion, pour la première fois, il n'y a personne. Seulement des caméras, des radars et des capteurs embarqués. C'est Uber qui réalise cette première mondiale après avoir racheté pour 680 millions de dollars la start-up Otto à l'origine du projet. Dans le camion, il y a bien un être humain, mais il ne conduit pas. Il se contente de surveiller que tout va bien, confortablement installé dans le siège couchette derrière le fauteuil du conducteur invisible. Selon les inventeurs du système, je cite, les chauffeurs auront désormais la possibilité de se reposer tout en continuant à rouler, ce qui fera gagner de l'argent aux salariés comme aux entreprises de transport. Deux ans plus tard, cependant, en juillet 2018, d'après Le Monde, la plateforme américaine Uber décide, pour des raisons dites stratégiques, d'abandonner ce projet de camion sans chauffeur et de se consacrer exclusivement aux voitures autonomes. Il faut dire qu'entre-temps, en mars de cette même année, une piétonne de 49 ans est morte après avoir été percutée par une voiture sans chauffeur de la flotte d'Uber dans la grande banlieue de Phoenix. On imagine le carnage si un camion autonome commettait le même genre d'erreur. Tout de suite dans les pieds sur terre, la question consiste donc à savoir si les trois histoires de chauffeurs routiers que nous vous racontons appartiennent ou pas à un passé bientôt révolu. Dans le doute, profitons-en, ça se passe entre la France et l'Angleterre, aussi en Union soviétique et sur les routes, qu'empruntent les sympathiques routiers, des histoires racontées par Fabienne Lomonier.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Christian, je suis chauffeur routier depuis 1978. Le camion, pour moi, c'est une passion. La conduite, la liberté, le fait d'avoir un engin entre les mains et de se sentir un petit peu supérieur. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours fait que ça, conduire les camions. En novembre 2007, je revenais de vacances. Je joins mon affréteur qui me propose ce transport de charger du Ninarichi à l'usine et de l'emmener à tel endroit. Et c'est là que ça s'est mal passé. J'ai chargé 19 palettes de parfums. Pas très loin, à Uri, c'est du côté de Fontainebleau, pour une livraison à Limeil-Brévannes dans la foulée, c'est-à-dire 2 heures après. Ça a un petit peu tardé au chargement, je ne sais pas pour quelle raison, parce que c'était un camion qui devait partir vers 17h, et moi, ils m'ont tenu jusqu'à 17h45. Alors je ne sais pas pourquoi, s'il y a une raison, si j'ai accès au quai pour surveiller la marchandise, mais ce n'est pas moi qui charge, ce sont les caristes. Donc je pars, je fais sensiblement 3 km, j'arrive dans la forêt de Fontainebleau, là c'est juste à la sortie. C'est au mois de novembre, il fait froid, mais le temps est clair, enfin à 18h il fait nuit. Hein. Et là il y a une voiture banalisée, gyrophare bleu, qui me double et qui me serre légèrement sur la droite, sur le bas-côté. Un peu à la Starkey Hutch, je dirais. Je suis surpris, mais je suis obligé de tempérer, quoi. Ils me stoppent, ils me font descendre de mon véhicule Manu Militari en me disant « qu'est-ce que t'as fait ? Tu transportes de la drogue ?» On va s'expliquer au commissariat. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Ils sont deux. Ils sont habillés normalement avec un brassard orange police. Je vois pas d'armes, mais je suis menotté dans les 10 secondes que je suis descendu du camion. Je suis menotté vraiment... courent dans l'eau et je ne peux plus rien faire. Quand je les découvre, je m'aperçois qu'ils ont des perruques à façon Morchoman un petit peu là. Une grosse perruque bouclée, quoi. Mais ça, je m'en aperçois une fois que j'ai les menottes. C'est trop tard. C'est fini. Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Je suis tombé dans un mauvais film, quoi. Il me couche dans la voiture, sur la banquette arrière, avec une couverture sur moi, pour pas qu'on me repère. Et l'autre chauffeur monte dans mon camion et démarre. Ils se suivent, parce que j'arrive un petit peu à glisser ma tête de la couverture de temps en temps, là, comme ça, et je vois mon camion un petit peu, il s'y double, il se redouble, je vois qu'ils se suivent, quoi. J'entends la conversation que le gars a au téléphone avec, je pense, son collègue dans le camion, mais je sais pas de quoi ils conversent entre eux. Ça prend sensiblement, je dirais, 1h30 couché sur la banquette arrière. Ils continuent à se parler de temps en temps, mais très peu, pour des indications, je pense, d'itinéraire ou je ne sais pas. Ils ont récupéré mon téléphone qui est dans mon camion. Le téléphone sonne dans la voiture et ils me demandent qui est Nicole. Nicole, c'est mon épouse, et je lui dis que c'est ma femme, quoi, qu'elle va commencer à s'inquiéter un petit peu. Généralement, quand je pars de dernier client, je l'appelle. Il y a mon fils qui m'a appelé aussi, mon plus grand qui à l'époque avait 18 ans, et il dit c'est pas normal que papa y rappelle pas. Je suis toujours couché dans la bagnole et après le téléphone est condamné, j'entends plus sonner. On va arriver dans un endroit où ils font le transbordement de mon véhicule dans un autre. Avant qu'ils fassent le transbordement du véhicule à un autre, ils m'ont mis dans le coffre. Donc là, j'étais dans la nuit noire. Et puis ça dure, je ne sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, le temps de dépoter toutes les palettes. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce que je sentais un bidon de liquide au bout de mes pieds. Donc là j'ai eu peur, j'ai eu peur. Je ne voyais rien, j'étais toujours menotté allongé. Et j'ai pensé à un bidon d'essence qu'ils allaient asperger et mettre le feu à la voiture, et moi, crever dans le coffre, quoi. Ni plus ni moins. Au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, la voiture a redémarré. Moi, je le connais très bien, le bruit de mon camion. C'est pas mon camion qui a démarré. Ils sont partis avec le camion qu'ils avaient rechargé. Donc, la voiture a redémarré, on est parti, on a roulé. Alors là, je ne savais pas du tout où, parce que j'étais dans le coffre. On fait environ 20 km. Ils me sortent du coffre. Ils m'ont enlevé les menottes. Et là j'ai vu qu'il y avait une deuxième voiture qui attendait. Ils me disent « te retourne pas » et « cours ». Donc là, j'ai peur de prendre une balle dans le dos. On était au bout d'un chemin face au TGV. Il n'y a pas âme qui vive. Ils vont me laisser crever là comme une misère, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais j'ai pas couru. Je me suis éloigné. J'entends une voiture qui démarre en trombe. Ils sont partis, mais en attendant, ils ont mis le feu à la voiture qui m'a transporté. J'ai nuit noire, hein, il était 22h. Donc là, je me retrouve un petit polo avec 2 euros sur moi et ma paire de lunettes. Et on est au mois de novembre quand même. Donc une fois que la voiture est partie, j'essaye de visionner un peu où je suis. Et je vois une route au loin, un axe avec 2-3 voitures qui passent tous les 2 minutes parce que c'est la campagne. Je me rappelle, il y a 7 voitures qui passent, mais un mec qui fait du stop à 22h en petit t-shirt comme ça, les gens ils s'arrêtent pas. C'est un jeune qui est passé une fois dans un sens, 2 fois dans l'autre sens et une troisième fois qui m'a pris. Il m'a pris, il était sur ses gardes parce qu'il avait une batte de baseball sous son siège. Je lui explique ce qui m'est arrivé. Donc il m'emmène à la gendarmerie. Et puis là, il y a le gars qui est de faction. Là, il appelle directement Paris, la brigade de Paris. Ouais. Et ils descendent dans l'heure qui suit, je pense. deux inspecteurs ou deux commissaires, je ne sais pas, de Paris, là, les Parisiens, hein, et ils me bombardent de questions. Alors un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et les mêmes questions au moins 3-4 fois pour voir si ça se recoupe et si je raconte pas des. Si je suis pas complice, quoi. C'est reparti pour un deuxième film. Ils font leur boulot, hein. Moi, je pense même que j'ai été sur écoute pendant un bon bout de temps. Après coup. Parce que j'aurais pu très bien être complice et m'en questionner jusqu'à, je sais pas, minuit, 1h du matin. Et mon frère est venu me chercher. Et on lui a dit qu'un camion avait brûlé du côté de Chelles. Donc là, j'ai percuté. J'ai dit, c'est le mien. Mais on n'a pas pu le voir. Ils n'ont pas voulu nous donner l'endroit exact. On a tourné dans Chelles, voir si je voyais pas quelque chose, la fumée, enfin, ou un truc. Mais on n'a pas réussi à le repérer. Mais c'est le lendemain matin, quand j'ai compris que mon camion, mon véhicule était détruit, là, ça m'a fait un choc, parce que c'est un véhicule qui était relativement neuf, qui n'était pas fini d'être payé. Mais bon, j'ai rebondi, parce que le 2 jours après, je rachetais un camion d'occasion et je repartais. Quand j'ai commencé à mon compte, hein, je parle en 89, j'ai pensé à tout, à la casse mécanique, à la panne de paupières, à l'accident, mais alors à ça, jamais, 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 jamais. Ça m'est même pas traversé l'esprit. Mais maintenant, je le sais. Je pense qu'on les a jamais retrouvés, ou on n'en a jamais fait connaissance. Et puis, on roule, on n'y pense plus. Enfin, j'y pense de temps en temps encore. J'y pense de temps en temps. Mais je fais plus de produits un peu pointus comme ça. J'y touche plus, ça. C'est fini.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Bernard Duquesne. J'habite à Bougainville, un petit patelin de 400 habitants, à côté d'Amiens. J'ai 56 ans, je suis routier depuis 32 ans. C'est un métier qu'il faut aimer. Pas avoir peur d'aller à l'étranger, même si on ne parle pas la langue du pays où on va. Chose qui m'est arrivée tout le temps parce que je parle que français. Mais bon, je tombais toujours sur des collègues français qui me disaient « bon, mais tiens, il faut faire ça, ça », qui m'aiguillaient. Il y avait une très très grande entente. Maintenant, quand on change une roue sur le bord de la route, déjà ils s'arrêtent plus. Et même quand c'est des mecs de la même boîte, ils klaxonnent, coucou, bonjour, et bientôt qu'ils nous rouleraient dessus. Ça a changé du tout au tout. Ce qu'il y a, c'est que avec le flux tendu, on ne peut plus trop se permettre d'arrêter. Les usines, les magasins, ils ne font plus de stock. Le stock, c'est le camion. Donc on charge et on va vider. Le stock, il se fait sur la route. Un jour, je redescendais d'Angleterre. Mon patron me dit, bon ben, je t'envoie une remorque, on fait échange à Coquel, tu remontes demain en Angleterre. Coquel, c'est à côté de Calais, l'entrée du tunnel sous la Manche. C'est là où on passe les douanes et tout ça. Donc j'ai un collègue qui m'apporte la remorque sur le parking de la station du tunnel. Je la raccroche, je laisse les béquilles baisser parce qu'il y avait du vent. Ça évite au camion de bouger et moi je dors mieux. Dans la remorque, il y avait des palettes de bobines de fil pour faire des moquettes. Ces palettes-là, elles se touchent pas. Donc ça fait des trous. Donc, je vais me coucher. Le lendemain matin, tout avait l'air normal. Bon, je décide de partir en direction du tunnel. Et comme il y a des fils, donc on avance tout doucement, j'entends quelque chose dans ma remorque. Ah, je dis, oh, c'est pas normal. Il y avait un service d'immigration qui vérifiait l'intérieur des remorques. Donc là, on a ouvert. Au début, on n'a rien vu. Et là, quand on est monté sur les palettes, on a vu 5 personnes. 3 hommes, une femme et un enfant. Insérés dans les palettes. Si on ne les avait pas vus là, avec le mouvement des palettes, ils auraient pu être écrasés. On les a fait descendre. Après, on a su que c'était des Afghans. Ils commençaient à descendre du camion qui faisait déjà voir leur montre pour qu'on se dépêche, pour qu'ils puissent repartir, pour pouvoir reprendre un autre camion. Parce que les policiers, ils appelaient un fourgon, ils mettaient les gens dedans et les ramenaient à Coquel. Donc eux, plus ils étaient rapidement ramenés à Coquel, plus vite ils pouvaient repartir pour prendre un autre camion. Moi, il fallait que je les suive dans leur bureau. Ça m'a foutu en pétard quand même, parce que je savais très bien que les problèmes, ça allait être pour moi. J'ai trouvé ça très injuste même. Et là, c'était que le début. Ils m'ont gardé 3 heures. Ils voulaient savoir où j'avais dormi, ce que j'avais fait, patati patata. Si je m'étais fait payer pour les passer. Je suis pas à gagner de l'argent sur le dos des pauvres gars. Ça... Mais c'est vrai que ça a été long. Après, on se demande ce qui va arriver, quoi. J'ai appelé mon patron pour dire que ils avaient trouvé des migrants. Il m'a demandé tu peux aller livrer en Angleterre. Je dis ouais, là, parce qu'ils m'ont libéré. Je peux partir en Angleterre. Je passe, je monte en Angleterre, je vide mon client, je recharge, je reviens en France. Tout se passe bien. Je suis remonté au moins 2 fois en Angleterre, sans problème. À la 3e fois, ma mère ouvre une enveloppe qui m'était destinée en anglais. Et quand elle a ouvert, elle a lu le mot « penalty ». Et derrière, 11 000 livres. Quand je suis rentré, ma mère me montre la lettre. Alors là, j'ai dit « moi je ne monte plus. Je ne monte plus en Angleterre parce que là, ça va être, je vais être coincé. » S'il me chope, c'est les bracelets, la tôle, jusqu'à ce que je paye. Mon patron, je lui ai dit catégoriquement que moi, je ne paierais pas. Et que je ne montais plus en Angleterre. Vu que c'était mon patron, lui, apparemment, avait une amende aussi. Le temps passe, je reçois plusieurs lettres de relance des Anglais pour payer, chose que je ne fais pas. J'ai écrit au ministère de l'Intérieur français, au ministère de l'Immigration anglaise, en leur demandant comment ils gèrent le problème et ce qu'ils vont faire à mon propos, en sachant que moi j'ai rien à voir là-dedans, que c'est injuste. Le ministère de l'Intérieur français m'a envoyé la réponse que je pourrais résumer en 2 phrases. Bien fait pour toi, fallait faire attention. Tout simplement. C'est là qu'on voit que le gouvernement, il n'en a rien à faire de ces problèmes-là. On se retrouve tout seul. Sans soutien, sans rien. Donc on est pris pour des... Vraiment pour des moins que rien. On est vraiment pas considéré du tout. Alors le chauffeur, c'est lui le couillon. Ouais, les Anglais font payer les chauffeurs. Même si c'est pas eux les passeurs. J'avais pas d'avocat, il était hors de question que j'en prenne un. J'ai pas l'argent pour me défendre. Mon patron, il a eu le double des lettres que j'ai reçues, le double des lettres que j'ai fait au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Immigration, les réponses. Et là, il m'a dit, t'arrêtes, je m'en occupe. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'avais prévenu, je dis... Si j'ai des problèmes, on est 400 personnes à monter à Coquel. Tout mon village était prêt à monter, bloquer Coquel. Ça n'a pas été jusque-là, heureusement. Pendant 2 ans et demi, je ne suis pas monté en Angleterre. Je n'avais plus reçu de courrier. Et 2 ans et demi après, j'ai reçu une lettre des Anglais, comme quoi tout était annulé. Je pouvais remonter en Angleterre tranquillement. J'étais plus mis en cause. Je n'ai jamais redemandé à mon patron ce qui s'était. S'il avait payé ou pas. Je sais pas. S'il me l'a pas dit, c'est qu'il avait pas envie de le dire. Il a peut-être. Je sais pas. J'ai pas osé demander. Disons que je voulais tourner la page, quoi. Que cette histoire-là soit terminée. Je voulais plus en parler. Ça m'habite toujours maintenant. Et. Quand je vois ce qui se passe encore sur Calais. qu'il y a toujours autant de migrants, que maintenant ils jettent des pierres, des troncs d'arbres au milieu de l'autoroute pour que les camions s'arrêtent pour pouvoir monter dedans. C'est désolant parce qu'on ne peut plus rouler tranquille par là. Le flux migratoire, il est tellement important sur ces routes que tous les parkings poids lourds sont fermés. On ne peut plus dormir autour de Calais. Nous, les routiers, eh ben, on est pris en étau entre les migrants qui sont là, le gouvernement qui ne fait rien, qui n'essaye pas d'améliorer la chose.
Je m'appelle Michel Vasseur, j'ai 67 ans dans 8 jours. J'ai été chauffeur routier 30 ans. Mon camion, je vais vous le résumer. J'avais mon poste de travail, j'avais ma cuisine, côté passager, et j'avais ma chambre à coucher derrière. Comme signe distinctif, j'avais la photo de mes petits-enfants sur le plafonnier, et j'avais une photo de ma fille en mariée, et j'avais mon fils en serrant la main de Jacques Chirac de l'autre côté, quand il a été meilleur apprenti de France en boulangerie. C'est tout ce que j'avais dans mon camion. Je sais pas comment ceux qui mettent des enjoliveurs, qui mettent des lumières, qui mettent des rideaux avec eux. Moi, mon camion, il était nature. J'ai pris le camion, il avait ses rideaux bleus. J'ai redonné mon camion, il avait toujours ses rideaux bleus. Voilà. J'ai bourlingué dans tous les pays, surtout les Balkans, les pays de l'Est. J'ai fait l'Angleterre en régulier pendant 10 ans, et après j'ai pris la route de l'Allemagne, de l'Autriche, la Pologne, les Balkans. Quand j'ai commencé, il y avait des frontières partout. Aujourd'hui, quand on passe une frontière, il n'y a plus d'attente comme il y avait à l'époque. C'était des files de... On y restait quelquefois 24 heures. Mon premier voyage sur l'Allemagne de l'Est. J'avais chargé du vieux papier dans le nord de la France pour livrer à Leipzig. C'était encore en Allemagne de l'Est, il y avait encore le mur. J'étais parti de bonne heure. Lundi matin, j'ai fait la route. J'ai passé les frontières belges. À l'époque, c'était encore la Belgique qui avait la frontière, la Hollande et puis l'Allemagne. Et j'ai passé ma nuit en Allemagne de l'Ouest. Il fallait faire un visa pour entrer en Allemagne de l'Est. J'arrive enfin en frontière. Tout se passait bien et à un moment j'ai entendu une déflagration de mitraillettes. C'était un gars qui voulait passer le barrage et on l'a vu à terre. Il avait été tué par les Vopos. Les militaires au poste frontière avec les fameuses Kalachnikov. Donc j'ai repris ma route. J'ai fait mon déchargement à Leipzig. J'étais reçu par les employés et tout. Ils nous ont offert le café. C'est la première fois que j'ai bu un drôle de café au lait. Et quand vous savez pas qu'il y a la mouture dedans, bah vous buvez. Ça fait un drôle d'effet. Comme ils savaient qu'on venait d'Allemagne de l'Ouest, ils nous demandaient pour eux si on n'avait pas un petit peu d'argent à leur échanger. Donc je leur ai donné quelques Deutschmark, puis ils voulaient du Deutschmark pour pouvoir se faire des plaisirs. Puis ce qu'ils aimaient aussi, c'est savoir si on n'avait pas des livres un peu spéciaux, avec des femmes et tout, parce que par là, chez eux, c'était interdit. On a toujours un lui qui traîne dans le camion. Ça fait partie du métier, ben, ça nous fait des photos toujours. Dans les camions, il y en a beaucoup, moi je l'avais pas, mais il y avait beaucoup de posters un peu spéciaux dans les fonds de cabine. Moi, c'était la cabine, puis c'est tout. Donc j'ai donné le magazine dans l'usine. Après, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Certainement qu'il y a eu chacun une petite page. Ce soir-là, je me suis offert le restaurant en Allemagne de l'Est avant d'aller recharger le lendemain matin. J'ai recherché de la ferraille, des traverses de chemin de fer, je crois bien, quelque chose comme ça. La douane venait dans les usines pour mettre en sécurité la marchandise, pour qu'il n'y ait personne qui puisse pénétrer dans les camions. C'était des camions bâchés, avec des cerclages en fer à l'intérieur et tout, et ils nous plombaient avec un plomb, puis qui étaient poinçonnés par les douaniers des pays de l'Est. Donc une fois ces formalités-là refaites, je suis reparti sur l'Allemagne de l'Ouest. Il était 9-10 heures du soir. Il y avait quand même une petite oppression. On sentait qu'on aurait été mieux une fois qu'on aurait passé la frontière. Il y avait un petit crachin, hein, il faisait pas bon. Les douaniers qui viennent, qui font le tour du camion, ils arrivent à l'arrière. Il y en a un qui prend le cordon tir là où il y avait le plomb. Il était un peu lâche et ils se sont rendus compte qu'on aurait pu faire monter ou passer quelque chose en fraude. On me met sur le côté. Je vois arriver des maîtres chiens, des militaires avec les kalachnikovs et tout. Et puis, ils ont ouvert la porte et le chien est monté à l'échelle, très 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 vite. Ça m'a surpris. Puis après, j'ai eu le droit au miroir, sous le châssis, ma cabine fouillée, jusqu'à temps qu'ils voient que je n'étais pas fautif. Mais là, j'étais vraiment oppressé. Ça me faisait quelque chose. Je sentais qu'il y avait, pour eux, j'étais quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal. Mais une fois que tout ça a été fait, ils m'ont signé les papiers, ils m'ont relâché. Je n'avais qu'une hâte, c'est d'être arrivé de l'autre côté du pont et pouvoir m'arrêter. Une fois que j'étais à l'ouest, je me suis mis sur un parking, j'ai coupé le moteur, j'ai mis la radio, j'ai cassé la croûte dans mon camion. Et ça a été. J'étais content, c'est... Pour une première expérience, le mort en passant, le chien en venant, j'en étais content d'être revenu chez nous. Quand on était à l'ouest, on était chez nous. Quand on faisait la longue route, le sentiment de liberté, c'était les musiques populaires de mon époque, du Daniel Guichard, du Claude François, puis quelquefois de la grande musique aussi. C'est peut-être... bête de dire ça pas pour un routier, mais j'aimais bien écouter de la grande musique en regardant les paysages, la mer, même la montagne. Quand vous êtes sur Chamonix, vous voyez les sommets blancs, c'est agréable. Et puis vous entendez des petites choses, c'était super.
It ain't easy to say goodbye. If you want to, baby, just cry. Nothing gonna make sense all the time, but someday it'll be alright. The lights are down and the curtains drawn. The crowd is gone and the lights are off. I don't care about fame and I might be.
C'était des histoires de chauffeurs, routiers, reportage de Fabienne Lomonier, réalisé par Yael Mandelbaum. Merci à Michel, le Centulois, à Bernard Duquesne, à Christian, à Eric des Transports, Erima, à Franck, à Vanessa de la Fédération Nationale des Transports Routiers et à Delphine des Transports Leleu. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.